Vous écoutez On lit pour vous.
Sport de gars, sport de filles, un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 24 janvier 2024 dans la presse. Au Québec, entraîner une équipe et arbitrer un match sont encore majoritairement des affaires d'hommes, démontre le plus récent rapport sur les filles et les femmes dans le sport. Il existe encore une différence marquée entre les sports de gars et les sports de filles. D'un côté, le hockey et le baseball, de l'autre, la gymnastique et le patinage artistique. Professeur au département d'éducation physique de l'Université Laval, Guylaine Demers fait de la recherche sur les femmes dans le sport depuis 30 ans. Son dernier rapport montre que chez plusieurs fédérations sportives québécoises, ce sont majoritairement des gars qui font leur sport, des hommes qui coachent et qui sont des officiels. Ainsi, chez les athlètes, la crosse, le hockey et le tir réussissent difficilement à attirer 10% de membres féminins. Le baseball, le surf des neiges, le golf, le tir à l'arc, le judo, le softball et le football, entre autres, comptent moins de 30% de participantes. Quant au cheerleading, à la ringuette, à la gymnastique, au patinage et à la natation artistique, ils affichent des taux de participation des hommes qui vont de 2 à 25% seulement. C'est donc dire qu'il y a encore des sports de gars et des sports de filles, lit-on dans le plus récent rapport du Laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec, Lab Pro Femmes, que dirige Guylaine Demers. Ce n'est certainement pas pour dire que les filles ne sont pas assez bonnes pour faire un sport ou dire que des gars ne seraient pas assez bons pour faire de la gymnastique. On est encore genré dans nos sports au Québec, explique la directrice du Lab Pro Femmes. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, dit-elle. Du surplace, chez les entraîneuses, près des trois quarts des arbitres au Québec sont des hommes. Le rapport cite une recherche qui indique que les femmes qui occupent ce poste vivent souvent des agressions basées sur le genre et qu'elles doivent naviguer à travers un lot de stéréotypes, ce qui nuit non seulement à leur entrée dans le métier, mais également à leur rétention. Les femmes sont également minoritaires chez les entraîneurs. En 2019-2020, les trois quarts de ces postes étaient occupés par des hommes. « C'est ce qui me déprime encore », dit Guylaine Demers, qui cite son premier projet de recherche sur le sujet en 1996, qui avait démontré des pourcentages semblables. Il y a une barre à 25% de femmes entraîneuses qui ne se franchit pas. On fait du surplace, dit-elle. Mais si les hommes athlètes sont plus nombreux, n'est-il pas dans l'ordre des choses qu'ils le soient aussi davantage à devenir entraîneurs? Non, dit Guylaine Demers, nos athlètes féminines sont aussi performantes que les athlètes masculins. Aux derniers Jeux olympiques, pour un nombre équivalent d'athlètes, les femmes rapportent beaucoup plus de médailles que les hommes, poursuit-elle. Le bassin où aller recruter est vaste. Plusieurs initiatives ont été mises en place au fil des années pour favoriser l'accession des femmes aux postes d'entraîneur, notamment des formations et du mentorat. Mais former ne suffit pas. Il y a une résistance dans le monde du coaching qui est difficile à combattre. Ce n'est pas de la discrimination ouverte, selon Guylaine Demers. Pas un club sportif ne dira ouvertement qu'il ne veut pas de femmes, illustre-t-elle. On est tout le temps dans le « j'ai affiché le poste et il n'y a pas de femme », illustre Madame Demers, qui observe que perdure encore une vision du coach très autoritaire. Ce n'est pas parce que le leadership est différent qu'il est inférieur, poursuit la professeure, qui sent tout de même un vent de changement dans les fédérations sportives. Optimisme. Il y a une nouvelle génération qui est sincèrement engagée pour avoir plus de femmes et de filles en sport. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Quand on allait auprès des fédérations pour offrir nos services, on était le caillou dans le soulier. Qu'est-ce qu'elles veulent, les bonnes femmes, se souvient la professeure de l'Université Laval. Les fédérations vont maintenant, d'elles-mêmes, vers des organismes qui promeuvent la participation des femmes dans le sport, comme Égal Action, pour les aider à comprendre des situations inéquitables. J'ai l'impression que dans 5 ans, les chiffres vont avoir changé de façon importante dans les postes d'entraîneurs, d'officiels, prévoit la chercheuse. Le rapport 2023 sur les filles et les femmes dans le sport du Lab ProFams fait état de données encourageantes sur la place des femmes dans les postes de pouvoir au sein des fédérations sportives québécoises. De plus en plus de fédérations s'approchent de la zone paritaire, le fameux 40-60, dans les postes de direction générale, dit Guylaine Demers. Il y a un mouvement par rapport à ces postes importants, mais on n'y est pas encore. Les derniers pourcentages sont les plus difficiles à aller chercher. On est parti de tellement loin. En 1999, il y avait peut-être 10% de femmes directrices générales, rappelle la professeure. L'arrivée en scène de la nouvelle équipe de hockey féminin de Montréal apporte aussi un souffle nouveau dans le monde du sport, note Guylaine Demers. La force du sport professionnel, c'est sa visibilité, dit la professeure. Des femmes sur la glace, des femmes qui coachent, des femmes directrices générales, sans compter les femmes qui commentent les matchs. Cette ligue est un tournant majeur pour le sport féminin, estime-t-elle. C'était « Sport de gars, sport de filles », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 24 janvier 2024, dans la presse.
Des usagers du REM jettent l'éponge et prennent l'auto. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 29 janvier 2024 dans Le Devoir. Excédés par les arrêts de service qu'ils jugent trop fréquents, dont une panne majeure le mercredi 24 janvier, et frustrés d'arriver en retard au travail à répétition, de nombreux usagers du réseau express métropolitain REM sont à bout de patience. 6 mois après la mise en service du train de la Caisse de dépôt et placement du Québec, certains usagers réguliers ont même jeté l'éponge, préférant utiliser leur voiture. Le mercredi 24 janvier, Mélina Narlis a quitté le travail à 16 heures pour se rendre à la gare centrale, au centre-ville de Montréal, afin de monter à bord du REM et de retourner chez elle à Saint-Hubert. Mais son retour à la maison a été beaucoup plus pénible que prévu. À la gare centrale, les trains sont immobilisés et les passagers envahissent le quai progressivement. Les usagers sont finalement avisés de l'arrêt de service et sont invités à se rendre au 1000 de la Gauchetière, où des navettes doivent les conduire sur la rive sud. Tout le monde s'est rué en même temps, c'était l'horreur, relate Madame Narlis au Devoir. Les centaines de passagers massés au 1000 de la Gauchetière ne sont pas au bout de leur peine. Après une quarantaine de minutes d'attente dans la confusion, ils sont informés par un agent de sécurité qu'aucun autobus ne viendra et qu'ils devront se rendre par leurs propres moyens à la station Longueuil, où des navettes les mèneront à bon port. C'était le chaos total. Il y a des gens qui criaient et partaient fâchés, indique Mélina Narlis. J'étais écœuré, alors j'ai décidé de prendre un taxi. Mes enfants étaient seuls à la maison depuis 16 heures. Je suis arrivé à la maison à 18h52. J'étais dégoûté. Mélina Narlis est d'autant plus frustrée qu'avant l'arrivée du REM, son trajet en autobus était beaucoup plus rapide et moins coûteux. Et elle n'arrivait pas en retard au travail toutes les semaines, comme c'est le cas désormais. Je commence à reconsidérer mon moyen de transport pour me rendre au travail, pour des raisons financières, mais aussi pour le temps que ça me prend pour aller au travail et l'anxiété que ça me cause. « On ne sait jamais quand ça ne fonctionnera pas », explique cette mère de 3 enfants. « J'ai fait mes calculs et ça me coûterait 110 $ de moins par mois pour utiliser ma voiture. » Usager pris en otage. Fanny Reiner y décrit le même chaos total que les centaines d'usagers ont vécu lors de l'arrêt de service prolongé alors qu'ils attendaient aux milles de la Gauchetière pour des navettes qui ne sont jamais venues. Il n'y avait aucun service de communication. Tout le monde paniquait, tout le monde criait, dit-elle. Quand un employé a recommandé aux usagers de se rendre à la station de métro Longueuil, Fanny Reiner a dû se résigner à faire appel à Uber, une course qui lui a coûté 55 $. Je n'avais pas le choix, il fallait que j'aille chercher mon fils à la garderie avant 18 heures. Mais c'est surtout le sentiment d'être pris en otage par le REM qui l'exaspère. Rappelons que, depuis la mise en service du REM, les autobus du réseau de transport de Longueuil, RTL, ne peuvent plus emprunter le pont Samuel de Champlain. Se sentir pogné au centre-ville sans aucun moyen de revenir chez toi, c'est comme s'ils avaient le contrôle sur ta vie et il n'y a personne qui t'aide. C'est un peu traumatisant. Isabelle Lucier, elle, a perdu patience. La semaine dernière, elle s'est acheté une voiture. Elle avait justement choisi d'habiter à Brossard pour être proche de la station du quartier du REM afin de pouvoir se rendre aisément à son travail, à Verdun. Mais la réalité l'a rattrapée. Comme elle doit se rendre au travail avec son enfant de 2 ans, ses déplacements se sont avérés compliqués, la solution REM autobus n'étant pas adaptée à sa situation. Je suis déçu, car dans le quartier où j'habite, ça coûte extrêmement cher parce que justement c'est à côté d'une station du REM et que je n'avais pas de voiture à payer. Mais je n'ai pas eu le choix, explique-t-elle. Isabelle Lucie comptait tout de même utiliser le REM pour certains déplacements à Montréal. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait ce fameux mercredi, mais peine perdue, puisque le réseau était paralysé et elle a dû rebrousser chemin pour prendre sa voiture. Amélioration promise. CDPQ Infra reconnaît que des améliorations seront nécessaires. Les arrêts de service des derniers jours sont attribuables à des pannes d'alimentation électrique et de systèmes informatiques ainsi qu'à des bris d'équipement, a indiqué Michèle Lamarche, directrice médias et contenu numérique à CDPQ Infra, dans un courriel vendredi. « Nous voulons absolument qu'une information plus claire et précise soit livrée aux usagers. C'est ce à quoi nous nous attendons de la part de nos opérateurs. Les usagers doivent avoir de l'information fiable, en temps opportun, dans les trains, en station et sur les plateformes, a-t-elle fait valoir. Madame Lamarche ajoute que le service de navette d'autobus fait l'objet d'une révision continue avec les autres réseaux de transport et l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, qui en assure la coordination. Les informations aux usagers concernant les services de navette qui sont disponibles sur notre site Web seront bonifiées dans les prochains jours pour faciliter la consultation et la compréhension. S'il n'y avait pas de navette aux milles de la Gauchetière le mercredi 25 janvier, c'est que l'achalandage du REM en heure de pointe est trop important pour permettre l'accueil des navettes nécessaires à la gare centrale, soutient-elle. Des recours? Fanny Reiner n'entend pas en rester là. Après avoir demandé en vain à CDBQ Infra un remboursement pour les frais d'Uber et le titre de transport qu'elle a perdu, elle songe à porter plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur et auprès de l'ARTM. « J'ai une bonne job. Les 55 $ ne vont pas me mettre dans le trou, mais je pense à d'autres femmes qui ont déjà de la misère à mettre du pain sur la table. Comment elles font? » Sur Facebook, où ils déversent leur frustration, des usagers du REM ont évoqué l'idée de déposer un recours collectif. Déjà, plusieurs pétitions circulent demandant le retour des autobus sur le pont Samuel de Champlain. C'était « Des usagers du REM jettent l'éponge et prennent l'auto », un texte de Jeanne Corriveau paru le 29 janvier 2024 dans Le Devoir.
Souffrez-vous d'électronisme? Un texte de Gabrielle Anctil, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Le mot est entré dans les dictionnaires en 2020. Électronisme, état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources numériques. En souffrez-vous? En France, 15,4% de la population entrait dans cette catégorie en 2021, selon une enquête gouvernementale, et 28% des gens manquaient d'habileté dans l'un ou plusieurs de ces cinq domaines. La recherche d'informations, la communication en ligne, l'utilisation de logiciels, la protection de la vie privée et la résolution de problèmes en ligne. Au Canada, la firme Deloitte relève que les personnes de plus de 45 ans, les habitants des régions rurales, les ménages à faible revenu et les autochtones, plus particulièrement, affichent des taux inférieurs à la moyenne d'accès et de participation à l'univers numérique. Est-ce grave? Fin 2019, le chroniqueur Paul Journet faisait cette boutade dans les pages de La Presse. Électronisme. Mal qui afflige votre oncle qui vous envoie des courriels en majuscules à partir de l'adresse de son épouse. Si ce type de comportement prêt en effet à sourire, il peut pourtant être grave. Un exemple. Alors que la crise sanitaire battait son plein en 2021, l'Institut national de santé publique du Québec se préoccupait de l'effet que les inégalités d'accès et d'usage des technologies numériques avaient sur la santé de la population. De fait, le numérique occupe de plus en plus d'espace dans notre quotidien. On nous vante sa facilité d'utilisation, sa polyvalence, son accessibilité. On l'utilise pour prendre rendez-vous avec son médecin, acheter un billet de cinéma, payer l'électricité, trouver un emploi. Et c'est vrai, pour la plupart d'entre nous, il est bien plus agréable d'accomplir toutes ces tâches en quelques clics que de se débattre avec des formulaires papier ou de se rendre sur place. Comme le note un rapport de Printemps numérique au Québec, les compétences numériques sont aussi un important facteur d'équité pour les enfants ou les élèves issus de milieux défavorisés et de l'immigration, notamment en ce qui a trait aux occasions d'emploi. Pour assurer une égalité des chances, plusieurs mesures peuvent être mises en place, en commençant par l'accès universel à un Internet rapide, abordable et fiable à la maison, accompagné de formations solides tout au long du parcours scolaire et professionnel. Tout comme la lecture et l'écriture, la maîtrise des outils technologiques est désormais essentielle au bien-être de tous et toutes. C'était Souffrez-vous d'électronisme? Un texte de Gabrielle Anctil, paru dans l'édition de janvier-février 2024 du magazine Québec Science.
Vive la hockey! Un texte de Stéphane Laporte, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse. Nagano, 1998. Première présence du hockey féminin aux Jeux olympiques d'hiver. Le hockey n'est plus seulement une affaire de boys. On découvre avec ravissement le talent des Hayley Wickenshire, France Saint-Louis, Danielle Goyette, Nancy Drolette, Camille Granato et Laurie Baker. En finale, les Américaines surprennent les Canadiennes 3-1 et remportent l'or. Une rivalité est née. Salt Lake City 2002. C'est le début de l'ère Kim Saint-Pierre. La gardienne de but permet au Canada de vaincre le pays hôte et de monter sur la plus haute marche du podium. Turin 2006. Les Canadiennes récidivent, cette fois en battant les Suédoises en grande finale. La très douée Caroline Ouellette marque le but gagnant. Vancouver 2010. Nos filles, portées par une foule en délire, remportent une troisième médaille d'or d'affilée en battant les Américaines 2-0. Les deux buts sont l'œuvre d'une jeune joueuse évoluant sur le quatrième trio, Marie-Philippe Poulin. Scotchy 2014, une finale inoubliable. Moins de 4 minutes à jouer, les États-Unis mènent par 2 buts. Le Canada parvient à combler l'écart avant que ne sonne la sirène. En prolongation, Marie-Philippe Poulin marque son 2e but de la soirée et de 4 pour les Canadiennes. Pyeongchang 2018. Toute bonne séquence a une fin. Une autre rencontre épique, mais amèrement inoubliable puisqu'on a perdu. Les Américaines remportent l'or en tir de barrage. Ce n'est que partie remise. Pékin 2022. La merveilleuse Marie-Philippe Poulin couvre d'or le Canada en marquant à 2 reprises lors du match ultime. Elle devient la seule athlète, hommes et femmes confondus, à marquer le but gagnant dans 3 finales olympiques au hockey. Ça fait donc 26 ans que le hockey féminin nous emballe, nous donne des frissons et nous rend fiers. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut calculer ça. Ça fait plutôt 7 fois que le hockey féminin nous captive. 7 fois en 26 ans, c'est pas beaucoup. Entre 2 Jeux olympiques, les joueuses disparaissent complètement. Comme le 29 février, elle n'existe qu'une fois tous les 4 ans. Entre 2 Jeux olympiques, les meilleures joueuses au monde se dispersent dans divers réseaux, loin de nos yeux, loin de nos cœurs. Heureusement, en 2024, les temps changent. La Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, créée en collaboration avec Billie Jean King, la Jeanne d'Arc du sport féminin, elle a battu un homme au tennis, innove. Pour la première fois, il existe un circuit réunissant les meilleures joueuses au monde. Un pendant à la LNH des gars. On peut les apprécier, les encourager, les connaître, s'attacher à elles de saison en saison. Des milliers de filles peuvent s'identifier aux Poulains, Carpenter, Bettez et Nash, comme des milliers de garçons s'identifient aux Crosby, McDavid, Bedard et Caulfield. Tout n'est pas parfait. Les équipes n'ont pas encore de nom. Les chandails sont trop ressemblants. Le site de la Ligue est unilingue, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les filles. Et elles comptent. Et des milliers de spectateurs crient quand elles comptent. Pas juste une fois tous les 4 ans. Le hockey est notre sport national, mais il n'y a rien de national qui ne soit partagé par les hommes et les femmes, par la nation au complet. Rien ici ne rassemble autant que le hockey. Le seul terrain d'entente des 2 solitudes, c'est la patinoire. Souvenez-vous quand le Canadien est en série, à quel point ça rapproche les gens. Maintenant, Montréal a deux fois plus de chances d'être en série. C'est la beauté du sport. Éveiller le sentiment grégaire, unir les gens qui habitent au même endroit mais s'ignorent trop souvent. Ce n'est pas seulement une vingtaine d'individus contre une autre vingtaine d'individus, c'est Montréal contre Boston. C'est Toronto contre Ottawa. C'est New York contre le Minnesota. Les citadins qui ne patinent pas, à part sur les trottoirs, font quand même partie de l'équipe parce que c'est l'équipe de leur ville. Il n'y aura peut-être jamais d'égalité dans les salaires des joueurs et des joueuses, mais la LPHF va servir quand même l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité dans les esprits, l'égalité dans les perceptions, l'égalité dans les réalisations. Le hockey est un symbole trop fort pour que sa prise de possession par les femmes ne change pas les mentalités. Ça va aider le rapport homme-femme, réduire la distance entre Mars et Vénus. Faire réaliser qu'on vient tous de la Terre. Imaginez si le prochain défilé d'un championnat de hockey dans les rues de Montréal est celui de la bande du club de la directrice générale Danielle Sauvageau. Une page se tournerait, une population en liesse, devant une équipe de filles. Waouh! Il serait temps. Bien sûr, quand on y réfléchit, c'est juste normal. Mais pour qu'une réaction devienne normale, il faut que ça se produise au moins une fois. En plus de toutes les considérations de diversité et d'inclusion, la principale raison de regarder le hockey féminin, c'est parce que c'est bon. Le match Montréal-New York de mardi à la Place Belle était pas mal plus enlevant que le match Montréal-Ottawa de jeudi au Centre Canadian Tire. Dans chaque coup de patin donné par les joueuses, on sent leur plaisir de jouer. On sent leur fierté de ne pas jouer seulement pour elles, de jouer pour nous, d'être enfin reconnue. Comme un artiste qui, après avoir beaucoup galéré, se retrouve à la Place des Arts ou au Centre Bell. Bonsoir, Montréal. Les femmes font partie du show. Vive la hockey! C'était « Vive la hockey », un texte de Stéphane Laporte, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse.